Vous écoutez France Culture, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, il est 18h. Et c'est Mathieu Laurent pour le journal depuis la Maison de la Radio. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. En Syrie, négociations en cours pour un cessez-le-feu dans la Ghouta orientale. Les réseaux nationalistes turcs, eux, exultent. Afrin est tombé un 18 mars, comme du temps des grandes heures ottomanes dans les Dardanelles. Commentaires et analyses de Didier Billion. Nous nous rendrons également à Moscou pour y suivre la fin des opérations de vote en ce jour d'élection présidentielle russe. À Mayotte, au terme d'un étrange premier tour de législative partielle. Enfin, nous écouterons le ministre de l'économie Bruno Le Maire brocarder l'appel à la grève à la SNCF. Afrin est tombé, les milices kurdes ont été défaites à Afrin, on y revient dans un instant. À ce front qui a évolué, il faut ajouter ce qui est à l'œuvre dans la Ghouta orientale, enclave pilonnée depuis le 18 février. Avec ces 10 derniers jours de significatives avancées des troupes gouvernementales, avancées telles que le principal groupe qui combat les effectifs de Damas négocie un cessez-le-feu. Faïla Kalraman fait état de pourparlers avec une délégation de l'ONU et le président syrien Bachar el-Assad a lui rendu visite à ses troupes comme pour parader avant l'heure. Précision de Beyrouth de Nicolas Feldman.
Sur plusieurs clichés, le président apparaît en costume, souriant, le bras levé, au milieu de quelques dizaines de soldats syriens dont certains sont perchés sur des chars. Le compte Facebook de la présidence présente ces photos comme ayant été prises sur le front de la Ghouta, un hommage, dit la légende, aux héros de l'armée syrienne arabe. Une visite avant tout symbolique, elle vient marquer les avancées du régime dans cette banlieue de Damas assiégée depuis 2013. En un mois, les forces loyalistes ont repris plus de 80% de la Ghouta. Aujourd'hui, les évacuations de civils se sont poursuivies dans le sud-est de l'enclave. Selon l'agence russe Interfax, plus de 20 000 personnes sont sorties ce matin via le passage d'Amouriyé, des personnes redirigées dans des camps de fortune contrôlés par le régime et assistées par le Croissant Rouge syrien. Dans l'enclave, un responsable de Faylak Errahman, l'un des groupes islamistes locaux, a annoncé des négociations sérieuses avec l'ONU. Elle vise à obtenir d'une part un cessez-le-feu dans l'une des poches assiégées, mais aussi à garantir l'aide humanitaire pour les civils, ainsi que l'évacuation à l'extérieur de la Ghouta des blessés les plus sérieux.
Ce matin, l'Observatoire syrien des droits de l'homme livrait un premier bilan de la bataille d'Afrin lancée le 20 janvier dernier. 1500 combattants kurdes tués, 400 soldats de l'armée syrienne libre et 46 autres de l'armée turque morts au combat. Toutes ces données sont bien sûr à prendre avec la plus grande prudence. Aucun bilan, par ailleurs, des victimes civiles. La prise d'Afrin, le président turc en a fait une fierté et un de ses vecteurs nationalistes qu'il agite chaque fois que possible. Et cette prise d'Afrin, Recep Tayyip Erdogan ne l'a pas annoncée aujourd'hui par hasard. Nous avons sollicité Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Aujourd'hui, 18 mars, il y a une concomitance de dates qui est assez étrange, puisque ce matin, M. Erdogan faisait un discours qui commémorait la victoire des forces ottomanes sur les alliés français et anglais lors de la bataille des Dardanelles, c'était le 18 mars 1915. Et il a profité de ce discours pour annoncer, dans le même mouvement, que les troupes turques avaient pris la ville d'Afrin. Et évidemment, cette concordance des temps va alimenter, encore une fois, la mystique nationaliste, ces discours extrêmement radicaux qui se développent en Turquie depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, mais qui évidemment ont atteint leur paroxysme depuis les débuts de l'opération militaire des forces turques contre Afrin.
Didier Billion, Recep Tayyip Erdogan veut aller jusqu'à la frontière irakienne pour créer cette fameuse zone de sécurité, ce sont ses termes, en a-t-il les moyens ?
Alors effectivement, il ne cesse de le répéter depuis deux mois. Il a déclaré qu'après Afrin, il se dirigerait vers Manbij, qui est une ville qui est située à quelques dizaines de kilomètres, et ensuite il irait même jusqu'à la frontière irakienne pour, je cite et je mets des guillemets, nettoyer la région des terroristes liés au YPG. Les YPG, c'est ces milices armées kurdes qui combattent actuellement dans la région. En réalité, je pense que Afrin, non seulement n'a pas été une partie de plaisir, parce que deux mois pour conquérir une ville dont il avait annoncé que l'affaire serait réglée en trois jours, indique que l'armée turque n'a pas une capacité opérationnelle extrêmement performante. Deuxième chose, Manbij possède un petit problème, pour lui en tout cas, c'est qu'il y a là des forces américaines qui sont stationnées. Donc on imagine que la prise de Manbij, si tel était véritablement son projet, nécessiterait un affrontement militaire avec les forces américaines, ce que je n'imagine pour ma part pas du tout. Ensuite, la frontière irakienne allait beaucoup plus loin. Donc en réalité, au-delà des proclamations très guerrières de M. Erdogan, mais malheureusement nous y sommes habitués, je pense que le principe de réalité va va s'appliquer et que M. Erdogan va être obligé de revoir un petit peu à la baisse ses prétentions militaires et guerrières. Et je pense qu'il ne faut pas, dans ce cadre, sous-estimer les réactions que désormais vont avoir les Américains et les Russes, qui, je crois, ne vont pas laisser M. Erdogan aller beaucoup plus loin. Et donc, va nécessiter une formule de compromis. Alors, qui peut prendre...
Quelle forme pourrait avoir ce compromis, justement?
Oui, alors justement, le compromis, mais ça ne sera pas à la suite d'actions militaires, ça sera un compromis politique. On peut imaginer qu'il y a un compromis qui, effectivement, démilitarise une partie ou totalité de la frontière turco-syrienne et qu'il soit demandé aux YPG, ces milices kurdes, de reculer de 10-15 kilomètres. Et je pense que les Américains y ont intérêt, je pense que les Russes y ont intérêt, parce qu'il faut bien comprendre que si les YPG ne sont pas détruits, bien loin de là, ils ont néanmoins subi une perte militaire avec la perte d'Afrin, c'est incontestable.
Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste de la Turquie. 65 ans, dont 18 au pouvoir. Vladimir Poutine est à quelques heures d'inaugurer un quatrième mandat. Les bureaux de vote vont bientôt fermer et le Kremlin proclamera la victoire du président reconduit. L'opposition aura fait de la figuration. L'opposition, la vraie, aura été bâillonnée et conduite via des procès, intimidation et autres marginalisations, ce qui n'est pas nouveau. Bonsoir Claude Brouillot. Là où les autorités innovent, c'est qu'elles persistent à ne pas livrer d'éléments de comparaison avec le précédent scrutin.
Oui, bonsoir Mathieu. Le dernier chiffre en notre possession à 19h, heure de Moscou, fait état de 59,5% de participation, avec toutefois un questionnement depuis la mi-journée. La commission électorale centrale ne donne plus le comparatif avec 2012, ce qu'elle faisait encore ce matin quand les chiffres étaient supérieurs à ceux d'il y a 6 ans. Pour mémoire, en 2012, le taux de participation finale était de 65%. Nous sommes là à la fermeture quasiment des bureaux de vote, à l'exception de l'enclave de Kaliningrad à l'ouest, dont les bureaux fermeront à 21h. Toute la question est donc de savoir si dans l'intervalle restant, ce taux de participation, qui doit légitimer la victoire de Vladimir Poutine, sera ou non supérieur à celui de 2012. Si ce n'est pas le cas, cela voudra dire que la campagne, le battage même constant autour de la nécessité d'aller voter, et qui a eu lieu depuis plus d'un mois dans tout le pays, a fini par exaspérer une partie non négligeable des Russes. Ajoutez à cela les témoignages de l'opposition qui relatent la présence dans certains endroits de bus d'entreprise devant les bureaux de vote. La victoire de Vladimir Poutine, annoncée dès le départ comme triomphale, pourrait finalement ressembler à un succès terni par le gonflement du parti des abstentionnistes.
Merci à vous, Claude Brouillot. À Moscou, cet après-midi, le ministère des Affaires étrangères a précisé que la France ne reconnaissait pas l'organisation de l'élection présidentielle russe en Crimée suite à, je cite, « l'annexion illégale de la péninsule ukrainienne par Moscou ». Salve dominicale de tweets sibyllins de la part de Donald Trump visait l'équipe du procureur spécial Robert Mueller. Le président américain martèle être victime, je cite, d'une chasse aux sorcières et que l'enquête en cours n'aurait jamais dû être ouverte. L'enquête en cours porte sur des soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie et tente d'établir si le président s'est rendu coupable d'entrave à la justice. Quelle légitimité prêter à l'élection législative partielle organisée ce dimanche à Mayotte? Le port est bloqué, l'hôpital à court de matériel, les axes routiers jalonnés de barrages et un collectif qui rassemble de nombreux élus a appelé à ne pas prendre part à un scrutin maintenu par la préfecture. Malgré la crise sociale et les tensions, la participation était au plus bas à la mi-journée. Bonsoir Sandrine Etoa-Andegue.
Bonsoir.
Sandrine, vous êtes à Mayotte. Dans quelle atmosphère s'est-elle déroulée cette journée électorale ?
Dans une atmosphère relativement calme, je dirais. Pas d'incident notable à signaler. Dans une commune du Nord-Ouest, Akoua, aujourd'hui, des assesseurs, des gendarmes, pardon, ont dû décadenasser deux bureaux de vote. Mais sinon, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Pour l'instant, pas de chiffre officiel de la préfecture de Mayotte. 2 heures après la fermeture des 73 bureaux de vote dans cette première circonscription. Selon les estimations de Mayotte, la première, le taux de participation à 19h heure locale serait d'un peu plus de 30%. On voit que les électeurs globalement ont boudé les urnes. Le dépouillement se poursuit. Les électeurs qu'on a croisés étaient partagés entre envie de changement et un sentiment de fatalité. Il n'y a pas de député dans cette première circonscription depuis que le Conseil constitutionnel a annulé le résultat de la dernière élection législative. Pour certains votants, c'est important qu'ils aient un représentant qui va les défendre, porter leur voix à Paris, surtout dans ce contexte. Et puis il y a ceux qui ont voté sans conviction, juste pour accomplir leur devoir civique. Et puis il y a tous les abstentionnistes qui ont suivi l'appel de l'intersyndicale, qui ont boycotté le vote, persuadés que ça ne va rien changer et que ce n'était pas le moment de faire cette élection. Côté sécurité, je vous le disais, pas d'incident. Les barrages ont néanmoins été renforcés.
Merci à vous Sandrine Etoandeg en direct de Mayotte avec Laurent Macchietti. À quelques jours de mobilisation sociale, le gouvernement fait montre de fermeté. Les syndicats de fonctionnaires appellent à manifester jeudi contre la réforme envisagée par l'Élysée, 140 manifestations programmées. Et le lendemain, vendredi, inauguration par les syndicats de la SNCF, cette fois d'un mouvement de grève échelonné, 2 jours sur 5 du mois d'avril par semaine, bien sûr du mois d'avril au mois de juin. La réforme est indispensable, tonne Bruno Le Maire, la grève, oui. Oui, mais pas en guise de préalable, le ministre de l'Économie et des Finances.
Aujourd'hui, il y a des discussions sur l'avenir de la SNCF, sur le statut, avec l'idée très simple que, de toute façon, la suppression du statut ne s'appliquera qu'aux nouveaux cheminots, pas aux anciens, donc ça ne fera absolument aucun perdant. Donc pourquoi lancer immédiatement une grève qui, pour le coup, va pénaliser lourdement les usagers? Et moi, je pense à tous ces usagers du train qui se disent « mais comment est-ce qu'on va faire dans les semaines qui viennent ?» alors même que les discussions ne sont pas encore achevées. Moi, je trouve que ça, ce sont des réactions datées. Cette idée de faire grève pour menacer. Si au bout du compte, on est dans un blocage et que certains ne sont pas d'accord, la grève est un droit constitutionnel, on réagit, on fait grève, c'est absolument légitime. Mais que ce soit un point de départ, moi je ne vous cache pas mon étonnement, ma surprise et surtout ma déception en pensant à tous ces usagers qui vont être pénalisés.
Est-ce que vous êtes sur l'optique, quelle que soit la grève et quelle que soit la durée de la grève, on tiendra?
Oui, nous tiendrons.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire avec nos confrères de France Inter. Recycler n'est plus une option, c'est une nécessité. Slogan de la Fédération française du recyclage qui s'associe aujourd'hui à la Journée internationale du recyclage. En France, sur 580 kilos de déchets produits par an et par habitant, seulement la moitié est recyclée. Recycler est pourtant bon pour la planète face à l'épuisement des ressources naturelles et aussi au réchauffement climatique. Nicolas Garnier est le directeur général d'Amorce, un réseau qui accompagne les collectivités notamment dans leur gestion des déchets. Les entreprises ne se posent pas assez la question du recyclage quand elles mettent un produit sur le marché. Nicolas Garnier.
Si vous allez dans un supermarché, je vous mets au défi de vous y retrouver entre les produits qui se recyclent et les produits qui ne se recyclent pas. Il y a surtout dans les supermarchés des millions de produits qui n'ont aucune solution de recyclage. Si vous avez des enfants, les jouets ne se recyclent pas. Si le matériel scolaire, les équipements ou le matériel de cuisine, le matériel de bricolage, les équipements de sport, des millions de produits que vous achetez tous les jours, au moins tous les week-ends, sur lesquels nous n'avons aucune solution de recyclage. Et nous, ce qu'on dit, c'est d'abord que ceux qui mettent sur le marché ces produits aient enfin une vraie démarche d'éco-conception en disant « Est-ce que quand je mets sur le marché une raquette de tennis ou une assiette, est-ce que je pense à la fin de vie de ce produit ? Est-ce que je pense aussi à la possibilité d'intégrer des matières recyclées ?» Et pour ça, il faut peut-être un acte 1 qui est enfin un logo qui permet aux consommateurs de se dire « Là, je fais un acte qui va dans le sens du recyclage et de l'économie circulaire. » Ce logo, il existe, il s'appelle Triman. Malheureusement, il est très mal respecté ou très peu respecté et quasiment pas connu. Donc on demande à l'État de faire une vraie campagne de communication, d'imposer sa mise en œuvre avec des sanctions pour ceux qui le mettraient mal en œuvre, c'est-à-dire ceux qui ne le mettraient pas alors qu'il doit être mis en œuvre ou ceux qui le mettent alors que ça n'est pas recyclable. Et il est temps qu'effectivement il y ait enfin une signalétique simple sur les produits pour que le consommateur puisse faire un acte d'achat responsable du point de vue de la recyclabilité. Et deuxième avantage, au moment où il se retrouve devant sa poubelle, il sait s'il doit faire un geste de tri ou s'il ne doit pas faire un geste de tri. Les gestes de tri en France, il y en a 4. Soit vous mettez dans votre bac, soit dans un point d'apport volontaire, soit dans une déchetterie, soit vous ramenez en magasin.
Voilà quelques recommandations pour presque fermer journal. Des propos recueillis par Véronique Reberotte. Quelques mots de la météo demain. Lundi, le temps restera froid. Encore un peu de neige sur le nord, à l'est des Alpes et au Hauts-de-France. De faibles précipitations, de belles éclaircies de l'Occitanie à l'Auvergne. Du soleil, du Languedoc à la Provence. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau à la technique de Farguéride.